vous avez des questions par rapport au cours de la dernière fois pour essayer de comprendre la nécessité de la grâce. Vous croyez qu'on peut prendre, on a mis article 2, l'article premier est terminé, pas besoin de reprendre. C'est vous qui devez me le dire, hein, parce que c'est moi. Alors on va prendre tout de suite l'article 2. Sans la grâce, l'homme peut-il vouloir et faire du bien ? Quitte à revenir à la fin de la question sur cet article premier, qui est très important, puisque c'est par là qu'on saisit, vous voyez, la brèche. Hein. Vous comprenez que c'est ça qu'il faut saisir. La brèche, le sauvageon doit être greffé. Alors la capacité du sauvageon à être greffé. Au fond, ce que saint Thomas appellera la puissance obédientielle. Il n'en parle plus ici, il en parle dans son compendium, sur la puissance obédientielle. Il est très curieux, et c'est très important de comprendre ça. La puissance obédientielle, c'est, il donne l'exemple, hein, le bois est en puissance obédientielle à devenir une statue. Mais la puissance obédientielle, vous comprenez bien, ne se comprend pas à partir du bois, mais se comprend à partir de l'artiste. C'est face à tel artiste que le bois peut devenir une statue. Et donc, la nature humaine est en puissance obédientielle à la grâce face au Père, face à la très sainte Trinité. Face à la très sainte Trinité, il y a une capacité de faire que la nature humaine devienne enfant de Dieu, par la grâce. Mais la nature humaine, par elle-même, n'a pas d'ordre positif à la grâce. Ça, c'est une question très, très débattue, qui a été reprise encore récemment, il n'y a pas si longtemps, avec le père de Lubac, sur le point de vue de la grâce. C'est intéressant à lire, le père de Lubac est toujours intéressant à lire, ce n'est pas toujours très précis. Alors à ce moment-là, il y a eu des querelles assez violentes. Il y avait le père Gagnebé à Rome, qui est le théologien scolastique par excellence, qui au fond a fait tout un compte-rendu sévère sur le père de Lubac. Ça a été pour le père de Lubac une très grosse souffrance. C'est après qu'il a écrit les méditations sur l'Église. C'est vieux, j'ai vécu tout ça parce que c'était un moment où on le voyait et c'était intéressant. Mais c'est pour ça que cette question, la nécessité de la grâce, voyez, a quelque chose de très très important. Parce que il s'agit de montrer comment la grâce n'est pas contraire à la nature, il s'agit de montrer que la grâce n'est pas selon la nature. Alors, c'est de passer entre le contra et le secundum. Alors, il faut bien dire. Contra natura. Secundum. C'est ici, voir le point de vue de la grâce. La grâce n'est pas contraire à la nature, la grâce n'est pas selon la nature. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre nous ? Selon la nature, vous voyez, ce serait dire qu'il y a un appétit naturel. La grâce a un appétit naturel vis-à-vis. La nature a un appétit naturel vers la grâce. Il n'y a pas d'appétit naturel de la nature vers la grâce. S'il y avait un appétit naturel de la nature sur la grâce, vous comprenez que sans la grâce, la nature sera parfaite. Il faut comprendre que la nature a en elle-même, la nature humaine, en elle-même sa propre finalité. Et alors, c'est très délicat, parce qu'il y a quand même un appétit aussi. On va éveiller un désir de l'ordre surnaturel. Alors ce désir de l'ordre surnaturel, sur quoi ça s'enracine? Il va faire plaisir. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne croit pas, vous lui montrez la grandeur de la foi. Alors voyez toutes les apologétiques qui risquent de dire, eh bien oui, l'homme sans la grâce, et eh bien c'est rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai dû le dire. Alors, c'est très très délicat. C'est un très très gros problème. C'est un très très gros problème, un problème très important, parce que c'est le problème qui se retrouve tout le temps, à travers les diverses positions théologiques. Vous voyez, il prend la position du père de Lubac parce que c'est la dernière qui a occasionné ces espèces de petites disputes. Alors, il faut bien comprendre que la grâce n'est pas contraire à la nature, ça va très bien. C'est le secundum naturam qui est très divisible. Parce qu'elle est au-delà, la grâce est au-delà. Elle est gratuite. Si elle est gratuite, elle est un au-delà qui transcende. C'est un au-delà divin qui transcende. Et cependant, la grâce s'insère dans la nature. Alors, c'est du côté de l'enracinement de la grâce dans la nature que nous comprenons que ce n'est pas contra naturam et que, cependant, ce n'est pas secundum naturam dans le sens où il y aurait un ordre positif. Il n'y a pas d'ordre positif de la grâce, de la nature vis-à-vis de la grâce. Mais il y a un ordre passif, ce qu'on appellera la puissance obédientielle. Alors, la puissance obédientielle, vous voyez, c'est comment la nature humaine, parce que c'est une nature spirituelle, est en attente de la grâce. Vous voyez, on dit bien, en attente de la grâce. Mais en attente de la grâce, est-ce que c'est positif? Ou est-ce que c'est en attente de la grâce comme une ouverture? Vous voyez, Heidegger, c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des réminiscences philosophiques. Heidegger, au point de vue de sa position philosophique par rapport à la découverte de Dieu, dit que la nature humaine est en attente de la révélation, que l'intelligence humaine ne peut pas par elle-même découvrir Dieu, l'intelligence humaine ne peut que recevoir Dieu qui se révèle. Alors, elle est en attente. C'est très curieux, il reprend ce que nous disons dans le surnaturel par rapport à l'ordre naturel, c'est-à-dire par rapport à la connaissance de Dieu. La nature humaine, l'homme, le philosophe, en pensant l'être, est en attente que Dieu lui parle. Eh bien, nous ne disons pas ça, mais je donne ça parce que c'est un parallélisme qui nous aide à comprendre la position de Heidegger. C'est toujours intéressant de voir ces choses-là qui renaissent au point de vue philosophique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une puissance obédientielle. Qu'est-ce que c'est que la puissance obédientielle? La puissance obédientielle, je vous l'ai dit, peut se comprendre que par rapport à la cause efficiente, artistique, transcendante. Par rapport, dans la lumière de la très sainte Trinité, je peux dire que la nature humaine est en attente de la grâce. Mais c'est dans la lumière de la cause efficiente, divine. C'est dans la lumière de la très sainte Trinité. Dans cette lumière, je peux dire que la nature humaine est en puissance obédientielle. C'est-à-dire, elle est en capacité, en ouverture. Mais ce n'est pas quelque chose de positif. Il n'y a aucun obstacle à... Non seulement il n'y a aucun obstacle, mais il y a une attente, mais pas positive. Une attente, c'est ça qui est très difficile à préciser. La puissance obédientielle est quelque... Alors, quand on met un mot, c'est très bien, la puissance obédientielle est très bien. Vous savez ce que c'est? Le bois par rapport au sculpteur. Est-ce que le bois gémit quand il n'est pas sculpté? Est-ce que la nature humaine gémit quand elle ne reçoit pas la grâce? Très important cette position. Et c'est très difficile, c'est entre le contra et le secundum, pour ne pas voir. Alors, vous comprenez que toute la question, c'est de sauvegarder la gratuité de la grâce par rapport à la nature. Parce que si la grâce est un complément de la nature, elle n'est plus gratuite. C'est un ordre de nécessité, si c'est un complément. Un complément qui vient perfectionner la nature. Elle vient bien perfectionner la nature, mais elle perfectionne la nature gratuitement. Dans un ordre, selon un ordre, qui dépasse complètement tout ce que la nature a de positif. Ajoutez ça pour cette question de la nécessité de la grâce, et nous y reviendrons. Parce que c'est quand même très très important. Et c'est très important de bien saisir ces positions diverses. Ça, si vous avez le temps, lisez le livre de Lubach, ça vous appelle, c'est très beau livre. C'est du père de Lubach. C'est intéressant ce que dit le père de Lubach. C'est père de Lubach est plus un spirituel qu'un dogmaticien. C'est le génie des jésuites, du reste. C'est plus des spirituels que le dogme. Alors, j'ai toujours la difficulté, parce qu'au point de vue spirituel, on n'a pas besoin de préciser trop. Mais dès qu'on est au point de vue dogmatique, on doit préciser.
Justement, je voulais savoir si la finalité de la nature humaine, comme telle, en point de vue par le moral et le spirituel, ne peut pas s'atteindre sans la grâce, n'est-ce pas, comme telle.
Oui, ça c'est tout le problème. La cause et conséquence du péché. Vous voyez, sans les conséquences du péché, une nature peut atteindre sa fin. Mais à cause des conséquences du péché, nous ne pouvons pas atteindre notre fin naturelle sans la grâce. Parce que la nature a été blessée, donc elle a perdu sa finalité. En perdant la finalité surnaturelle, ça nous rend à propos du péché de l'homme et d'elle, en perdant sa grâce, elle a perdu sa finalité naturelle. Donc elle peut la retrouver par la grâce. Mais faisons attention, ici nous sommes dans un regard de théologie scientifique qui essaie de préciser exactement l'ordre positif qu'il y a de la nature humaine à sa fin. Il y a un ordre positif, il y a un appétit naturel qui demeure vers ma fin, même si je ne peux l'atteindre que par la grâce. Il y a un appétit naturel de la vérité, il y a un appétit naturel de l'amour d'amitié, il y a un appétit naturel de contemplation. Oui, cet appétit naturel demeure, parce que la nature humaine n'est pas détruite. Elle n'est pas détruite par le péché. Il y a un obstacle. Je ne peux atteindre cette fin que avec la grâce. Ici, je me pose la question, vous voyez, c'est par rapport à la fin surnaturelle, la vision béatifique. Y a-t-il un appétit naturel de la vision béatifique? Très grosse question. Non. Le capax dei de nous. Alors, comment comprendre? Alors, vous voyez, il y a des questions qui sont toujours en parallèle, ça, qui seraient très intéressantes, parce que la question de la nécessité de la grâce. Vous comprenez, si Satan m'a mis ça en premier, parce que c'est absolument capital. Vous voyez ? Alors, il faut voir la nécessité, je vous l'ai dit, la nécessité de la doctrine sacra, la nécessité de la foi, la nécessité de l'espérance, la nécessité de la charité. Ça se monnaie de cette manière-là. Et la nécessité de la grâce, bon, alors il y aurait toutes ces questions-là, si on avait le temps de le faire, qu'on devrait mettre en parallèle. Parce que c'est important de voir comment se situe la nécessité de la foi par rapport à l'intelligence, la nécessité de l'espérance par rapport à l'espérance, la nécessité de la charité. C'est pas tout à fait les mêmes. Ici, nous sommes, au point de vue de la grâce, nous sommes dans l'ordre entitatif. C'est ça que le père de Lubac n'a pas assez précisé. Et je crois, et le père Galilée non plus, n'est-ce pas, parce qu'ils se sont pris comme chien et chat. Ça ne va pas. Mais il faut essayer de comprendre que, puisque la nécessité, c'est d'essayer de saisir comment, dans la nature, il y a une attente de la grâce. Bon, je mets puissance obédientielle. En disant ça, je ne me compte pas, et je peux dire quelque chose d'absolument sûr. Il y a une puissance obédientielle. Cette puissance obédientielle, elle est dans l'âme, elle est dans le nous, elle est dans la volonté. Est-elle exactement la même dans les trois? Là, la question. Et au fond, cette question-là n'a pas été traitée. Et je crois que c'est ça la solution pour essayer de voir ce qu'il y a de juste dans la position du père de Lubac, ce qu'il y a de juste dans la position du père de Lubac. Vous voyez ? Parce que l'un se passe plus d'un côté spirituel, donc du côté affectif, l'autre se passe plus d'un côté spéculatif, donc du côté entitatif. Or, de fait, la nécessité, c'est-à-dire voir comment il y a une puissance obédientielle, une attente de la nature par rapport à la grâce, je suis dans l'ordre entitatif. L'attente du nous par rapport à la foi, je suis du côté de l'intelligence. Ce n'est plus l'entitatif. La volonté par rapport à l'espérance et à la volonté. Là, vous comprenez que c'est du côté affectif que la puissance obédientielle sera le plus proche d'un appétit ordre positif. Et c'est du côté de l'intelligence et du côté entitatif, la grâce et la nature, que la puissance obédientielle pourrait être le mieux précisée. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, parce que ça me semble très important. C'est une question, je vous dis, qui revient tout le temps. Tous les 50 ans, cette position revient dans l'histoire de l'Église. C'est pas étonnant, parce que c'est une position qui est extraordinairement importante, de voir comment la greffe s'enracine dans la nature humaine. Comment la grâce s'enracine dans la nature humaine. Elle n'est pas totalement étrangère. La transcendance de Dieu n'est pas étrangère à la nature. Et la transcendance de Dieu demeure cependant par rapport à la nature gratuite. Vous voyez, nos pauvres mots éclatent quand on est devant un problème comme celui-là. Parce que la grâce n'est pas étrangère. Dire que la grâce est étrangère, ce n'est pas juste. La grâce est plus nous-mêmes que nous sommes nous-mêmes à nous-mêmes. C'est sûr, puisque la grâce est l'ordre divin. Et donc, l'ordre divin est plus à nous-mêmes que nous sommes à nous-mêmes. Donc, c'est pas étranger. Et cependant, il n'y a pas un ordre positif de la nature vers la grâce. Et là, puissance obédientielle attente. Vous voyez, c'est ces problèmes-là qu'il faut se saisir. Qui sont très importants. Et je vous dis, quand on regarde ce problème de la nécessité de la grâce, c'est ce problème-là qu'il faut voir. Vous travaillez-le, c'est un problème théologique capital. C'est une clé. Alors c'est toujours important de voir ça. Oui. 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 Sans la grâce, l'homme peut-il posséder quelques vérités? Oui. C'est le vrai.
Est-ce qu'on peut répondre à la même chose? Parce qu'il dit qu'on n'a pas besoin de la grâce pour connaître quelques vérités, mais pour connaître la vérité.
Oui. Alors, si je prends la vérité, c'est Dieu. Si je prends verum, c'est quelques vérités. Dans le langage précis. Hein. Puisque l'abstrait, la vérité, prise de façon absolue, ça ne peut être que Dieu. Ça ne peut être que Christ. C'est le Christ qui a la vérité.
Ou l'acte pur, enfin, je veux dire.
Oui.
Est-ce que l'homme peut, sans la grâce, atteindre l'acte pur?
L'homme, par la grâce, peut atteindre l'existence d'un être premier. Mon intelligence peut, sans la grâce, atteindre, affirmer que Dieu existe.
Parce que l'intelligence,
mon intelligence n'est pas blessée dans sa capacité de l'aider par le péché. La conséquence du péché n'a pas blessé mon intelligence. Mon intelligence, c'est Luther qui dit que l'intelligence est corrompue, si vous voulez.
Est-ce que l'intelligence n'a pas besoin d'exercer de la volonté pour aller jusqu'au bout?
Tout à fait, elle a besoin. Alors, c'est là que j'ai besoin de secours de Dieu, à cause de mon état de pécheur. Et ça ne regarde pas ma nature. Faisons attention. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on a besoin, pour retrouver notre finalité, on a besoin de la grâce. Mais comme la vérité est inscrite dans un appétit de l'intelligence par rapport à la chose, il y a quelque chose qui demeure. L'intelligence demeure naturellement bonne. Et donc l'intelligence demeure naturellement ordonnée vers le vrai. Oui, alors, ce que je voulais montrer ici, c'est que cette question s'inscrit dans un ordre beaucoup plus vaste et beaucoup plus général, vous voyez. C'est ça qu'il faut comprendre. Cette question s'inscrit dans... Comme toujours, c'est une analyse que donne saint Thomas. Elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste, les rapports de la grâce et de la nature. C'est simplement ça que je voulais vous rappeler. Et ça, je crois que c'est important. L'important, c'est saisir ce rapport de la grâce. Alors,
sans la grâce, l'homme peut-il vouloir et faire le bien? Alors, ce sera votre réponse, là, oui.
Alors, cependant, nous lisons dans saint Paul, il n'appartient pas à celui qui veut, ni à celui qui court. Cela vient de Dieu qui nous l'accorde par miséricorde. Et dans saint Augustin, sans la grâce, qu'il s'agisse de penser, de vouloir et d'aimer ou d'agir, les hommes ne font absolument aucun bien. Vraiment, directement contre Pélage, hein. Oui, ça, c'est nettement. Sans la grâce, là, vous comprenez très bien cette phrase, hein, prenez-la jusqu'au bout, vous pouvez arriver à Luther. Hein. Sans la grâce, qu'il s'agisse de penser, hein, donc vous voyez bien, qu'il s'agisse de vouloir, d'aimer ou d'agir, les hommes ne font absolument aucun bien. Donc, on est corrompu. L'interprétation de Luther par rapport à des phrases comme celle-là. C'est très beau cette phrase de Saint-Augustin. Il s'agit de la comprendre, Saint-Augustin, mais écrit jamais très précis, mais c'est ce que va dire saint Thomas. La nature humaine peut être considérée en deux états différents, ou bien dans son intégrité. Alors, gros, gros problème. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité de la nature humaine? Bon, ou bien dans son intégrité, telle qu'elle fut en notre premier père avant le péché. Donc, vous voyez, ce n'est pas la nature humaine. In se, c'est la nature humaine dans un état d'intégrité. Ou bien dans son intégrité, telle qu'elle fut en notre premier père avant le péché. Bon, notre nature humaine, celle que nous possédons, a connu en Adam cet état-là. C'est pour ça que nous avons des nostalgies. Les oignons d'Égypte. Et ceux-là, ils sont plus gros. Ou bien dans l'état de corruption où nous sommes depuis le péché originel. Alors, vous voyez, il y a deux états. Ça, il faut bien comprendre. Hein. Elle peut être considérée de deux façons, duplicité. Dans son intégrité, alors c'est à partir de là qu'on parlera des états de la nature. Saint Thomas ne dit pas d'état de nature, mais dit double considération. Et la scolastique dira les états de la nature. Marquez le cas, s'il y a quelque chose. Les états de la nature. État de la nature humaine. Alors vous avez toujours intégrité, et puis état après le péché. C'est selon qu'elle est corrompue en nous après le péché du premier parent, donc la corruption. L'état de corruption, l'état du péché. Vous voyez, il y a quelque chose de commun entre les deux, c'est la nature humaine. Et alors, c'est la nature humaine qu'on regardera en elle-même. Parce qu'elle est, elle peut être dans deux états différents. Si elle peut être dans deux états différents, ça prouve qu'il y a quelque chose de particulier. Vous voyez ? Dans les deux cas, elle a besoin pour faire et vouloir le bien, de quelque ordre qu'il soit, du secours divin. Alors comprenons bien ici, hein. On ne dit pas la grâce, on dit le secours divin. Et du secours divin considéré comme premier moteur. Nous l'avons montré. Dans le primo mars. Dans l'état d'intégrité, la capacité d'action de l'homme était suffisante pour que, avec ses seules forces naturelles, il pût vouloir et faire le bien proportionné à sa nature, comme est le bien d'une vertu acquise, mais non un bien sans proportion avec cette nature et la dépassant comme est le bien d'une vertu infuse. Dans l'état de corruption, viens voir, dans l'état de corruption, l'homme n'est même plus à la hauteur de ce que comporte sa propre nature, à tel point qu'il ne peut plus, par ses seules forces naturelles, accomplir dans toute son étendue le bien proportionnel à sa nature. Cependant, le péché n'a pas totalement corrompu la nature humaine jusqu'à la priver de tout le bien qui lui est naturel. Alors ça, c'est contraire à Luther. Hein. C'est ça que saint Thomas rectifie la parole de saint Augustin qui pourrait très bien être mal comprise. Cependant, le péché n'a pas totalement corrompu la nature humaine jusqu'à la priver de tout le bien qui lui est naturel. C'est pourquoi, même dans cet état de dégradation, l'homme peut encore faire par sa puissance naturelle quelques biens particuliers. Notez bien les exemples de saint Thomas. Comme de bâtir des maisons, planter des vignes ou autres travaux du même genre.
Pas grand chose, hein. Mais vous voyez que c'est de l'ordre du fat chéré. Notez bien, c'est l'ordre du fat chéré. On a gardé la capacité de construire. Donc des brigands peuvent construire. Et construire bien. Mais il n'est pas capable de réaliser dans sa totalité le bien qui est de son domaine naturel, sans connaître quelques défaillances. Il ressemble à un infirme qui peut encore exécuter tout seul quelques mouvements.
non pas se mouvoir parfaitement comme un homme en bonne santé. Donc la course, ça ne va pas. Tant qu'il n'a pas obtenu sa guérison
par le secours de la médecine. Eh bien, vous voyez comme c'est nuancé. Hein? C'est le facere qui demeure le plus. C'est ce que le Saint-Père a noté dans son encyclique sur le travail, en disant le premier précepte est demeurer au-delà de la faute, dominer l'univers, le facere, le travail. Et c'est en faisant ça que le travail maintient en l'homme, vous voyez, en l'homme maintient quelque chose de stable. Ce que les psychologues diront, hein. Tant que l'homme travaille sérieusement, papa, tant que l'homme travaille sérieusement, il y a quelque chose qui demeure. C'est le jour où il ne travaille plus, ça devient terrible. Parce que, comme du côté moral, il est abîmé, il est blessé, c'est pas ça qui va demeurer, c'est le facere qui demeure, vous voyez. Alors, en résumé, dans l'état d'intégrité, l'homme avait besoin d'une force ajoutée gratuitement à celle de sa nature, uniquement pour accomplir et vouloir le bien surnaturel. Dans l'état de corruption, il en a besoin à double titre, d'abord pour être remis en état, et ensuite pour accomplir le bien de l'ordre surnaturel, c'est-à-dire mérité. Enfin, dans les deux cas, il faut toujours un secours divin pour donner la motion pour bien agir. Donc il y a l'auxilium divinum qui est toujours nécessaire pour le bene agendo. Donc, oui.
Comment est-ce qu'on peut faire une étude philosophique?
Alors, dans ce point de vue-là, oui, parce que la nature demeure. Alors, je peux faire une éthique philosophique en ce sens que l'ordre de la nature vers sa fin demeure, même si je sais que dans l'ordre de l'exécution, l'éthique regarde la nature, regarde la structure, la composition de ce qu'on veut. Or, pardon, pas de la finalité, c'est bien évident, mais ça demeure. Alors, le secours de Dieu est là pour rétablir la nature dans sa, pas dans son intégrité première, mais en tant que nature. Oui, c'est du côté. Venez,
au fond, c'est la différence.
En deux mots. C'est la différence entre le point de vue de l'exécution et le point de vue de la spécification. Le péché ne touche pas l'ordre de la spécification, mais le péché touche l'ordre de l'exercice. Oui. Alors, c'est pour ça que je peux encore faire une éthique naturelle. Oui, c'est une expérience, puisque je ne peux le faire qu'à partir de l'expérience. Alors qu'évidemment, c'est pour ça qu'on dit que pour Aristote faire l'éthique, un Nicolas, qu'il fallait nécessairement la grâce. C'est impossible au moment.
Il n'aurait pas pu dire que l'homme a comme finalité l'amitié et la contemplation, c'est pas eu la grâce.
Oui, dans l'ordre de l'exercice. Mais dans l'ordre de nature, il a tout à fait raison de dire que c'est inscrit dans la nature humaine. Et c'est cette confusion, ça va très loin, parce que c'est la confusion entre l'ordre de l'exercice et l'ordre de la spécification, oui, qui vous font dire que tout est corrompu. L'exercice implique un secours de Dieu. Alors, c'est facile de dire à ce moment-là, la spécification, si je ne fais pas la distinction. Pouvons-nous faire encore la distinction dans une perspective théologique entre l'exercice et la spécification?
Alors, nécessairement, vous avez deux positions extrêmes, la position d'une plus d'éthique naturelle, uniquement une éthique chrétienne,
puisque vous confondez les deux ordres. Dans la perspective de la théologie, les deux ordres sont confondus, comme dans la perspective de Luther.
Alors vous prenez deux positions extrêmes, où vous n'avez pas besoin de la nature et la nature, vous n'avez pas besoin de la grâce et la nature peut, ou le point de, parce qu'il y a de la spécification qui demeure, ou au contraire l'inverse. Oui.
Est-ce que saint Thomas peut dire qu'il n'y a pas de vertu injuste dans l'état d'intégrité?
Non, pas du tout. Au contraire, dans l'état d'intégrité, il y a la grâce. Et donc, il y a des vertus injustes. Oui, mais faisons attention.
Il parle de la nécessité de la grâce. Il dit la nécessité de la grâce, c'est pour atteindre quelque chose qui est au-delà de la nature. Oui. Et dans l'état d'infériorité dans lequel nous sommes, la grâce est nécessaire non seulement pour ça, mais pour l'exercice aussi.
de ce qui est naturel. Autrement, nous rabattons vers le functionnel. Est-ce que vous voyez bien ça? Je reprends, si vous voulez, parce que c'est quand même très important. C'est une des questions, c'est capital, cette question-là. De voir, d'abord, distinction que Saint-Thomas fait entre état d'intégrité et état de corruption. Mais faisons attention, quand il regarde l'état d'intégrité, il regarde par rapport à la nature. Hein, et on se demande la nécessité de la grâce. Alors, par rapport à l'état d'intégrité, l'état d'intégrité ne peut se comprendre qu'avec la grâce. Mais je peux regarder dans l'état d'intégrité là où la grâce qui surnaturalise est nécessaire. Et où la grâce qui simplement assume permet uniquement le développement de la nature humaine. Autrement dit, l'état d'intégrité permet à la nature humaine de se développer parfaitement comme une nature humaine. Et dans ce développement parfait de la nature humaine, la grâce sera toujours nécessaire pour atteindre ce qui est au-delà de la nature. Mais dans cet état d'intégrité, la nature humaine se développe parfaitement elle-même. Oui. Et elle n'a besoin que du second général de Dieu. Mais elle a tout ce qu'il faut pour développer selon qui est dans le développement de la nature. Donc l'amitié, la contemplation. Tandis que dans l'état de corruption, la nature est en dessous du niveau de la mer. N'est-ce pas ? Dans l'état de corruption, elle a besoin de secours de Dieu et de la grâce pour pouvoir atteindre sa fin naturelle, c'est-à-dire l'amitié et la contemplation.
Au niveau de l'exercice et de la spécification.
Au niveau de la spécification. Vous voyez ? Je veux dire, au niveau de l'exercice, elle a besoin de ce secours de Dieu. Et au niveau de la spécification, non, pas au niveau des intelligences, mais au niveau de la volonté. Oui. C'est complexe. C'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Pourquoi ? Parce que vous avez deux choses à regarder tout le temps. Le point de vue de ces états, les deux états différents. Et dedans, la nature humaine. La nature humaine n'est pas corrompue dans son caractère spécifique. Si elle n'est pas corrompue dans son caractère spécifique, l'ordre naturel de l'intelligence vers la vérité demeure. L'ordre naturel de la volonté vers le bien demeure. Vous voyez ? C'est ça l'ordre de la spécification. Mais elle ne peut atteindre cette vérité et ce bonheur que avec un secours de Dieu.
Oui. La nature, quand on dit nature, on dit la spécificité.
Oui, c'est le caractère spécifique.
Quand on dit la nature ne peut plus l'atteindre, c'est la personne qui a la nature.
Tout à fait, c'est la nature, c'est seule la personne qui agit.
Donc, quand on dit que la grâce, elle se greffe pas sur la nature, mais sur est donnée à la personne qui a la nature.
Oui, elle est donnée à la personne qui a la nature, mais la nature demeure toujours quand même. Donc je peux, au point de vue scientifique, préciser le point de vue de la nature.
Mais vous dites que la grâce est nécessaire à l'exercice oui. Sur la nature.
L'exercice sur la nature. Et cet exercice regarde la personne, c'est évident.
Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un appétit de la grâce la puissance obédientielle de la nature.
Oui, c'est la puissance obédiente de la nature, parce que c'est quand même la puissance. Dès que je précise au point de vue spéculatif, la personne comme telle, c'est un pose, c'est un sujet, c'est un tout. Donc, je ne peux pas. Oui, ça regarde l'être. Ça regarde l'être, ça regarde la manière d'exister. Tandis qu'ici, nous sommes pour essayer de voir où la grâce intervient et où la grâce doit intervenir nécessairement. Et on voit que la grâce intervient nécessairement de deux manières différentes. Elle intervient d'une façon nécessaire à cause de la corruption de la nature. La corruption de la nature, c'est un état de nature qui fait que la nature ne peut pas s'épanouir selon toutes ses exigences.
Mais,
oui.
J'ai du mal à comprendre corruption de la nature, puisque...
Oui, un état de corruption.
Ah oui, mais l'état, donc c'est...
état de corruption. Je ne dis pas la corruption de la nature, état de corruption. C'est pour ça que j'ai dit intégrité et corruption, regarde les états. Et la nature est présente dedans. Vous voyez ? Dans l'état d'intégrité, la nature peut s'épanouir pleinement selon toutes ses exigences de sa nature.
Donc la nature en elle-même n'est pas blessée.
La nature n'est pas blessée. Non, la nature demeure nature, tandis que Luther dira corruption de la nature. Vous voyez ? Et c'est la nature en elle-même demeure, autrement je n'aurai plus l'espèce humaine, je n'aurai plus l'homme. Même dans le pécheur, il y a l'homme. Et dans le pécheur, il existe l'homme, et par le même, il existe la puissance obédientielle vers la grâce. Oui. Tandis que si la nature humaine était corrompue, il n'y avait plus ça. Et c'est pour ça qu'on distingue les états de nature et la nature. L'état d'intégrité et l'état de corruption. Oui.
Alors, qu'est-ce qui atteint alors par corruption ? Est-ce que ce sont des vertus ? C'est une virtus qui nous fait agir ? Qu'est-ce qui atteint par la corruption ?
Bon, c'est le point de vue. Ça toucherait la personne. Vous voyez qu'au fond, la personne implique la nature et les états. Ça, c'est sûr. Ça implique la nature et les états. Les états, c'est de l'ordre, de la manière dont se réalise cette nature. La manière dont se réalise cette nature va toucher tout de suite l'exercice de cette nature. Vous voyez, c'est l'exercice, c'est la dynamis de cette nature, si vous voulez. C'est tout ce que cette nature est capable de réaliser par elle-même, dans l'ordre de la réalisation, dans l'ordre de l'efficacité, dans l'ordre de l'exercice. Vous voyez, c'est ça pour regarder les états. Alors, c'est corrompu dans le sens que le point de vue de l'exercice. C'est pour ça que l'état est beaucoup plus proche de la volonté que de l'intelligence, forcément. L'intelligence peut s'abstraire de l'état. La volonté ne peut pas s'abstraire de l'état. Mais l'intelligence peut s'abstraire de l'état. Tandis que la volonté, non, parce qu'elle est une faculté d'exercice. Donc elle regardera toujours le point du concret. Et donc le point de vue de l'état. Oui. Alors l'état regarde au point de vue de l'exercice, comme tel, avant tout, en premier lieu. Tandis que la nature regarde le point de vue de la spécification avant tout. Il faut bien voir les deux aspects différents. Et le status naturel, le status de la nature, c'est une nature concrète telle qu'elle est et telle qu'elle est capable de s'exercer.
Oui. Est-ce que le péché, Adam, quand il a péché, est-ce que c'est un péché selon la personne ou selon la nature en tant que tel père ?
C'est un péché personnel. Mais comme il était responsable de toute l'humanité, il y a une répercussion sur l'état de nature. Parmi vous, vos péchés n'ont pas de répercussion sur l'état de nature, malheureusement. Ils n'ont de conséquences que sur l'individu. Vous voyez ? Alors, distinguez individu, état de nature, nature. Et la personne fait tout. Hein ? La personne, c'est non seulement l'état de nature, la nature, c'est aussi l'individu. Tandis que l'état de nature est commun, nous avons tous le même état de corruption. C'est pour ça qu'on comprend si bien. Nous sommes tous des individus différents à vivre cet état de nature différent. Et nous sommes tous des personnes vivant cette individualité, cet état de nature et cette nature.
Donc c'est du côté de ce qui fait passer au pot, c'est donc de la matière.
L'exercice.
Que le péché peut être transmis, c'est à cause du côté de la matière.
Oui, c'est du côté de la matière. Tout à fait. Du côté de la matière. Et la conséquence du péché, regardera l'état. Mais ça, je ne veux pas trop regarder le péché originel maintenant ici, vous voyez ? Quoi ? Non, c'est un peu différent, vous voyez ? Ici, nous regardons les effets. Bon, alors si on regardait le péché originel, on entrerait dans la cause.
Puisque vous dites que l'exercice, c'est l'exercice qui est touché, et donc l'état n'est pas du côté de la spécification, donc vous dites que c'est du côté du pose.
C'est du pose, mais le pose, je peux le regarder de deux manières différentes. Je peux regarder le pose ultime de l'individu, et je peux regarder le pose atteint la nature.
Mais puisque les parents communiquent aux enfants le péché originel,
oui.
C'est forcément écouté de leur...
C'est pas les parents, c'est la nature corrompue qui communique ça. C'est en dehors de la volonté des parents.
Mais non, mais je veux dire, c'est les parents.
C'est en dehors de la volonté des parents.
C'est la génération.
C'est le propre de la génération, mais c'est en dehors de la volonté des parents. Les parents n'ont aucun désir de communiquer le péché originel.
C'est pour ça que je dis que c'est le corps.
Quoi ? Oui, c'est la nature. C'est la nature, dans le sens que c'est cette nature humaine qui se communique de cette manière-là, par la procréation.
l'état de la nature.
Oui, c'est l'état de la nature, c'est sûr, c'est l'état de la nature. C'est cette nature corrompue qui va se communiquer dans cette corruption. C'est pas comme ça.
Le secours divin
est d'ordre tout à fait général. Vous voyez, et saint Thomas fait allusion ici au premier moteur.
Le secours divin est d'ordre tout à fait général. C'est la motion du premier moteur par rapport à l'exercice de tous les autres qui sont des causes secondes. Je suis toujours dépendant dans mon exercice et dans mon être. Vous voyez, c'est la dépendance radicale dans l'ordre de l'être.
Et que quand toujours, l'agir présuppose l'être.
Vous voyez ? Alors, c'est la dépendance radicale qui existe dans toute réalité à l'égard de l'être premier. Donc, cette dépendance de l'auxilium divinum, de ce secours divin, il est tout à fait général.
Je ne peux pas avoir en tant que créature une indépendance, une autonomie parfaite.
Je suis toujours dépendant de Dieu dans mon activité. Oui. Et cette activité peut être bonne ou mauvaise. Alors là, c'est tout à fait général, c'est l'auxilium général. Donc, ce n'est pas la grâce. La grâce est prise ici comme un apos qui vient s'ajouter à la nature en vue de la fin surnaturelle. Permet de tendre vers la béatitude divine. Vous voyez les deux ? La différence entre les deux ? Oui, allez.
Je ne peux pas comprendre aussi pourquoi la grâce est nécessaire pour la nature humaine dans son intégrité.
Oui, parce que la nature d'intégrité est déjà la grâce. Oui. Bon, Dieu n'a jamais créé une nature à l'état pur. Il a créé de fait dans un état de grâce. C'est ça qu'on appelle l'état d'intégrité. Mais cet état de grâce a quelque chose de particulier dans cet état d'intégrité, et c'est ce quelque chose de particulier qu'on regarde quand on parle de l'état d'intégrité. L'état d'intégrité n'est pas la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est justement ce propre de la grâce qui nous fait aller vers Dieu. L'état d'intégrité est lié à la grâce sanctifiante donnée au premier homme, exactement comme les anges. Les anges sont dans un état d'intégrité, dans un état de justice originelle, les bons anges.
Ils ont besoin de la grâce pour...
Non, la grâce est ce don que Dieu leur a donné pour que leur nature soit surnaturalisée et soit ordonnée vers un bonheur divin, un bonheur surnaturel. Cette grâce qui est donnée par la notion naturelle a une répercussion au niveau nature qui les met dans un état d'intégrité. L'état d'intégrité ne regarde pas la surnaturalité. Vous voyez, l'état d'intégrité ne regarde pas la finalité surnaturelle. Ça regarde la manière dont va le pose de cette nature humaine qui va de fait pouvoir être dans un état de perfection. La spiritualité, c'est merveilleux, hein, c'est que tous les désirs bons de la nature se trouvent entièrement épanouis grâce à cet état d'intégrité.
Est-ce que vous dites, est-ce que ce n'est pas compris dans le secours divin ?
Non, c'est encore autre chose. Le secours divin est tout à fait au niveau de l'être et au niveau de l'exercice général de tout être qui dépend de Dieu. Donc c'est tout à fait général, ça, l'auxilium. On voit bien parce que saint Thomas là le met à un niveau métaphysique. Ça fait partie du premier moteur. Il dit premier moteur. Il dit même pas la paternité, hein, parce qu'il pourrait dire la paternité de Dieu, mais il dit premier moteur. Bon, que nous comprenions mieux, ça se situe tout à fait à un niveau tout à fait général. Tandis que dès que nous sommes au niveau de la grâce, nous voyons deux types de grâce, si vous voulez. On verra le type de grâce après. La grâce qui va être un remède de l'état de corruption. La grâce chrétienne, elle va être un remède à l'état de corruption, mais elle ne nous fait pas, elle ne nous redonne pas l'état d'intégrité. L'état d'intégrité, hein, j'en ai pas l'expérience, mais j'y crois.
J'ai pas l'expérience, cet état d'intégrité. Mais nous l'avons eu.
Votre nature humaine, notre nature humaine, a connu cet état d'intégrité. Et donc, il y a quand même toujours une petite nostalgie.
dans la liturgie, là, on dit tu restaures la nature humaine dans son intégrité.
Oui, dans son intégrité, il faut comprendre, la intégrité pas liturgique, c'est pas la même précision. C'est pas la même précision. La liturgie n'est pas au niveau de la théologie scientifique. La liturgie est au niveau poétique, symbolique de l'écriture. Vous voyez ? Elle n'est jamais au niveau de la. C'est le théologien qui disait il faudrait mettre la somme de Saint-Amand en grégorien. Non, c'est pas ça. Oui, pas. Parce qu'au fond, le point de vue poétique et symbolique est tout propre de la théologie scientifique, c'est d'essayer, à travers. C'est pas du tout de rejeter le symbole, mais c'est de le mettre à sa place et de montrer qu'il y a une connaissance plus précise.
Si la grâce n'avait pas été donnée à Adam, est-ce qu'une contemplation purement naturelle de l'être premier aurait suffi à faire son bonheur ?
Oui, c'est ça, ça aurait suffi, ça aurait été un état premier, vous voyez, comme les mains, quand on parle des mains. C'est la nature humaine qui aurait été uniquement dans un épanouissement naturel. Ça n'aurait pas été un état d'intégrité, ça aurait été un état de perfection. Oui, alors il faut. C'est là. Bon, il faut réfléchir, vous voyez, à ces distinctions qui sont subtiles, je comprends très bien, il faut s'y habituer. Il faut réfléchir à cette distinction entre nature, état, individualité. Et comprendre que la personne, c'est tout. La personne humaine regarde tout ça. C'est pour ça que la personne humaine n'est pas d'ordre de l'analyse. C'est l'ordre toujours du tout. La personne, c'est un tout. Alors, il faut arriver dans l'analyse à distinguer ce que c'est que l'état de nature, la nature et son caractère de réalisé concrètement. Nous y reviendrons là-dessus parce que c'est important.